des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les studios de Radio Royaume Vercors en compagnie de Romain Jacquier-Laforge. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain, vous êtes jardinier et vous nous parlez ce matin de la lutte contre les maladies, donc la lutte contre les maladies qui atteignent les végétaux. Comment lutter plutôt naturellement contre ces maladies?
Alors déjà, il y a une chose toute simple, c'est d'acheter ou d'avoir des végétaux qui sont résistants. Alors résistants, jamais résistants à toutes les maladies ou suivant les conditions climatiques qu'on peut avoir, voilà. Mais je vais prendre un cas spécifique, c'est les cas du rosier. Comme chez pépiniériste, c'est vrai que je pense naturellement à ça. Donc pour les rosiers, vous avez des variétés qui, sans avoir ces conditions qu'on a cette année, même avec des conditions plus sèches, vont vite fait perdre leurs feuilles dès le mois de mai ou mois de juin, avoir des taches noires, avoir de l'oïdium, c'est le blanc en fait qui est sur le feuillage, qui fait que le feuillage se gaufre et voilà, c'est un champignon. Et puis il y en a d'autres qui, dans les mêmes conditions, vont pas du tout gérer de la même façon et vont être capables en fait de résister à ces maladies. Donc, c'est ce que j'explique des fois à des clients, c'est que d'avoir un rosier, alors malheureusement si c'est un rosier ancien, si c'est un rosier qui a été offert par quelqu'un, ça peut valoir le coup de le garder et il faudra faire ce qu'il faut, donc traiter comme on le verra par la suite. Autrement, des fois, on va remplacer le rosier, en sachant que par exemple, pour le cas des rosiers, on ne plante jamais un rosier dans un endroit où il y avait déjà un rosier, il va falloir faire soit déplacer le rosier, soit autrement enlever la terre, enfin voilà, ou la désinfecter, mais le plus simple c'est encore de déplacer. Mais voilà, vous avez des rosiers donc qui ont une norme de résistance aux maladies qui s'appelle ADR, qui est une norme allemande, où on fait des tests dans différentes stations en Allemagne. Sans traitement, et au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que si les rosiers cochent toutes les cases, ils peuvent avoir cette norme. Alors ça, c'est une norme, c'est quelque chose qui est payant par l'obtenteur du rosier. Donc voilà, même un rosier qui n'a pas cette norme peut être résistant, mais en tout cas, quand vous achetez un rosier qui a ce label ADR, vous êtes à peu près assuré de ne pas avoir de maladie dessus, et donc d'avoir quelque chose de sain. Mais ça existe des plantes qui résistent à des maladies, vous en avez notamment, je pense aussi aux tomates ou des choses comme ça, des variétés qui sont un peu plus résistantes que d'autres. Donc voilà, déjà choisir la variété, si on peut, plus résistante. Après, comme on l'avait dit précédemment, ça va être aussi faire attention quand on replante ces plantes au jardin. Donc comme je le disais, dans le cas où on ne replante pas un rosier au même endroit, si vous avez une année où vous avez par exemple du mildiou sur tomate ou sur pomme de terre, il va falloir faire très attention à ne pas laisser déjà les déchets de végétaux au sol. Très rapidement, en fait, si vous voulez, les spores des champignons vont rester vivants, en fait, et au printemps, avec les nouvelles pluies, vont en général remonter sur les végétaux et donc vont attaquer les végétaux. Donc il faut faire bien attention à ne pas laisser de débris de végétaux malades, de ne pas mettre ça éventuellement au compost spécialement. Les composts, pour les particuliers, ne montent pas assez en température pour détruire donc ces germes. Donc voilà. Et donc changer la culture qui va être faite dessus, hein, pour éviter ce problème de retour de maladie. Par exemple, pour les tomates, ça va être aussi tout simplement, par exemple, remonter un petit peu les feuilles au printemps, hein, pas que les feuilles touchent le sol. Ça va être aussi aéré, que ce soit pas trop serré. Alors si vous êtes dans des serres, si vous travaillez dans une serre, faut faire très attention à ça. L'excès d'humidité est très très mauvais. Alors la chaleur c'est bon, mais l'excès d'humidité c'est mauvais. Et c'est pareil, la chaleur ça dépend jusqu'à quel point. Souvent dans les serres, il faut vraiment pouvoir laisser aérer. Alors avec toujours le problème du vent quand on s'absente et éventuellement donc de la prise au vent qui peut poser des problèmes. Mais les bons producteurs en général aèrent beaucoup leurs serres et ça évite vraiment pas mal de problèmes. Alors, quand vous êtes au potager, bien sûr, mettre des plantes un peu plus éloignées les unes des autres, sur certaines, notamment je pense aux tomates ou des choses comme ça, ça peut être bien aussi, parce qu'en fait, voilà, s'il y a un peu plus d'aération, vous aurez moins de maladies. Alors après, on peut aussi donc gérer les maladies. Alors, gérer une maladie, maintenant, vous allez retrouver dans les commerces des produits qui sont dits préventifs. Ça veut dire que vous n'avez plus d'action pour guérir une maladie qui a atteint un végétal. Ça va être juste, en l'occurrence, prévenir l'infestation. Donc ces produits-là sont à passer malheureusement assez fréquemment quand il pleut comme cette année. Puisqu'en fait, après chaque pluie, pratiquement, vous devriez être amené à passer. Alors, vous avez par contre une contrainte qui est que ces produits-là ne sont quand même pas inoffensifs et que vous avez une quantité de produits à passer, soit en kilos, soit autrement en quantité de fois dans l'année qui peut pas être dépassée. Hein, voilà. Donc faire attention à ça aussi. Mais celui que vous connaissez le plus certainement, ça va être la bouillie bordelaise. C'est un produit à base de cuivre. Il existe en fait sous deux sortes. Vous avez donc soit vraiment la bouillie bordelaise classique, soit autrement l'oxychlorure de cuivre. Ces deux produits vont avoir à peu près la même efficacité. L'oxychlorure de cuivre est peut-être un peu plus efficace quand même. Il faut faire attention à ne pas surdoser. C'est utilisable en agriculture biologique, mais même en agriculture biologique, on est bien d'accord que les producteurs n'ont pas le droit de mettre une quantité supérieure à ce qui est noté sur le carton. Donc de mémoire, par exemple pour la bouillie bordelaise, pour la patate, ça va être 25 grammes par litre. Mais par exemple pour la tomate, ça va être 6,25 grammes, il me semble, par litre, à voir suivant votre produit, à bien lire le bilan. Voilà, ce produit-là va avoir par exemple une action contre le mildiou. Et vous avez un autre produit, donc utilisable toujours pareil en agriculture biologique, qui va être le soufre. Donc en fait, le soufre, il se présente sous deux formes. Vous avez le soufre en fleur, donc qui s'utilise en poudrage. Et autrement, vous avez ce qui s'utilise le plus, c'est le soufre mouillable en général, donc à pulvériser. Voilà. Il faut faire attention aux températures de passage de ces produits-là. On peut avoir des brûlures éventuellement si on passe par des températures trop importantes. Il y a une émanation en fait du produit qui peut brûler aussi les plantes. Donc faire toujours attention à ça. Alors c'est efficace contre le soufre, lui va être efficace notamment contre l'oïdium et contre les acariens en général, les araignées rouges ou des choses comme ça. Voilà. La tavelure aussi. Donc à utiliser dans les jardins à dose homéopathique, on va dire, quand il y a besoin, voilà, quand vous en avez besoin.
Et comment savoir, donc si on reprend l'exemple du rosier et de l'oïdium, comment savoir quand notre rosier a besoin d'être traité et combien de fois ?
Alors en fait, le problème, c'est que cette année, les besoins de traitement sur certains rosiers vont être énormes. Et donc, comme je le répète, vous n'avez pas le droit, des fois, de traiter plus peut-être de 5 fois par an. Ou voilà. Donc, alors l'oïdium, déjà, ce qu'il faut voir, c'est tout simplement que vous avez aussi à choisir. C'est vous qui choisissez pour votre jardin. Il y a des cultures qui méritent éventuellement d'être traitées et il y a des cultures qui ne méritent pas. Par exemple, votre rosier, est-ce que c'est nécessaire de le traiter ? Est-ce que ça met en jeu sa vie ? Est-ce que ça met en jeu sa floraison ? Est-ce que c'est très important pour vous ? Est-ce que c'est pas très important ? Après, c'est vraiment à vous de voir, en fait. C'est ça le principe. Par contre, pour le potager, c'est vrai qu'on peut plus, enfin là c'est plus justifié éventuellement, donc ou ce potager ou les arbres fruitiers, de traiter, puisqu'en fait vous allez récupérer ça pour manger. Donc voilà. Théoriquement, en fait, il faut pas attendre vraiment une infestation, puisque comme votre produit n'est que préventif, une fois que la maladie est là, vous allez pouvoir juste limiter un petit peu son développement, mais en tout cas la maladie sera déjà présente sur la plante ou dans la plante, puisqu'en fait les champignons peuvent aussi pénétrer dans la plante et donc après avoir une action même sur les tissus des végétaux. Donc bon, dans le cas de la monilyose ou d'autres choses comme ça peut être problématique mais pas mortel. Par contre, dans le cas par exemple de monilyose, la monilyose, c'est le fait d'avoir donc sur ces arbres fruitiers, alors notamment je pense aux cerisiers, et surtout ce printemps, je pense qu'on risque tous d'avoir des problèmes. Donc sur le cerisier, c'est quand votre fruit commence à avoir des petites sporulations en fait. Alors ça fait comme un petit dépôt blanchâtre concentrique qui se forme sur le fruit, puis qui va s'agrandir par cercle concentrique de plus en plus grand, et après vous allez avoir des fruits donc qui vont se momifier et qui vont se toucher et se compacter et en fait pourrir sur votre plante. Ils vont rester notamment après sur l'arbre pendant tout l'été et tout l'hiver. Et ça, ce que ça peut avoir comme action, c'est de rentrer vraiment dans le tissu du végétal, de faire mourir certaines parties de branches donc qui sont petites d'abord dans un premier temps. Et si ça continue, pire, peut faire mourir même l'arbre. Alors là, le pire, c'est souvent sur les abricotiers ou alors voilà sur les cerisiers. Donc là, comme je vous disais, on enlève tous les fruits qui sont momifiés, on ramasse par terre, on fait brûler ou alors on emmène à la déchetterie, ce qui est pas obligatoirement une bonne solution, mais voilà.
Ne pas mettre au compost donc ces végétaux qui sont atteints.
Surtout pas.
Parce que ça va contaminer après le sol et puis oui.
Exactement. Parce que les spores de champignons résistent dans des conditions. C'est pour ça que le champignon est quelque chose d'assez fascinant d'ailleurs. C'est que ça peut se maintenir en vie pendant un temps assez long et se redévelopper quand il y a des bonnes conditions de développement pour lui quoi. Voilà.
Donc c'est bien noté pour tous ces traitements préventifs. Est-ce qu'il y a d'autres traitements préventifs ou est-ce qu'on passe peut-être maintenant au curatif? Une
Alors,
fois que les plantes sont atteintes.
Curatif, il n'y en a plus. Donc voilà, si vous n'êtes pas agriculteur, vous n'avez plus accès au curatif. Après, on peut aussi bien sûr préparer des choses à base, en l'occurrence, de charbon de bois pulvérisé. Hein, voilà, ça va être plutôt pour les graines, en fait, tout simplement. Donc quand on va semer, on va mélanger en fait un petit peu de charbon de bois avec les graines, ça va avoir une action anti-fongicide, hein, tout simplement. On peut mettre bien sûr aussi contre les maladies, parce que les maladies, on pense à tout ce qui va attaquer le système feuillage, des choses comme ça, mais aussi on va avoir une action aussi sur les blessures éventuellement, hein, donc pour faire cicatriser. Alors notamment, je pense que quand on a une attaque de grêle, on peut passer un coup de bouillie bordelaise pour aider aussi à cicatriser un petit peu la plante, mais ça va être mettre du mastic parfois sur des arbres, hein, ou de l'onguent. Alors faire attention, hein, c'est pas parce que vous avez une blessure qu'il faut mettre du mastic obligatoirement. Le mastic, ça va vraiment utile quand votre plaie est soit trop importante, donc importante, on va dire que c'est à peu près à partir de la taille en gros d'une balle de tennis plutôt qu'autre chose, ou alors qu'elle est disposée trop droite, trop plate en fait, et que l'eau peut rentrer dedans, des choses comme ça, hein. Si la plaie est bien coupée sur le côté, vous n'avez pas de soucis trop à vous faire. Et je pense qu'on parlera des préparations à base de plantes dans une autre chronique.
Une prochaine chronique. Merci Romain pour ce tour d'horizon donc des traitements et des protections des végétaux contre les maladies. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle chronique.
Merci.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas, chères auditrices et chers auditeurs, à lui envoyer vos questions écrites ou donc par message vocal, par mail à brindejardin@gmail.com, brin au pluriel. À très bientôt.